La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec, comme chaque mercredi, Routel Krief et Marc Lambron qui n'en reviennent toujours pas de la façon dont on peut arriver pour faire son travail d'aiguilleur du ciel en voiture, badger au parking et repartir immédiatement.
Nous sommes là.
Vous êtes là, ouais.
Contrôlons les contrôleurs.
Ça, c'est la chute de la rue de presse d'Hervé Gattegno. Nous sommes ensemble pour parler aujourd'hui d'autorité. Un élève a giflé son professeur à plusieurs reprises hier et lui a promis de le fumer. C'était à Toulouse. Ce sont ses camarades qui l'ont sorti de la classe pour sortir le professeur de cette ornière. C'est le énième épisode d'une série qui a conduit le Premier ministre à plaider en faveur d'un retour de l'autorité. On parle désormais du retour du droit à la correction, du couvre-feu pour les mineurs dans certains quartiers. C'est mis en place à Béziers. La secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, vous me l'avez rappelé hier, Routel Krief, a réclamé une baguette magique pour faire disparaître les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait revenir l'autorité ?
Le droit de correction, c'est pas dans ce paquet, entre guillemets.
Non.
Ça, c'est un argument qui a été invoqué dans un procès et qui a bénéficié à l'accusé de façon assez scandaleuse. Mais c'est pas dans ce paquet autorité que vous décrivez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la réaffirmation de l'autorité par le Premier ministre et par ses ministres. Et en fait, cette réaffirmation, elle est attendue. Il faut maintenant qu'il y ait des moyens qui sont mis parce que elle a été désacralisée et il y en a de très nombreuses conséquences. Néanmoins, autorité ne veut pas dire brutalité, comme certains s'en inquiètent. Et j'ai vu encore ce matin une tribune intéressante de quelqu'un que j'aime beaucoup, Hélène Devinck, qui s'inquiète de mauvais traitements possibles contre les enfants. Évidemment, heureusement, il n'est pas du tout question de ça. Et la brutalité, elle doit être honnie au grand jamais. Mais l'autorité, elle est indispensable, on le voit aujourd'hui.
Marc Lambron, l'autorité, on dit, elle s'est délitée, elle a disparu. L'autorité peut-elle apparaître et disparaître comme ça ? Est-ce que ce n'est pas un phénomène plus complexe ?
D'abord, vous parlez à un vieux libertaire. Mais il faut faire le diagnostic. C'est pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Cette récession de l'autorité ? Bon, moi, je crois qu'il y a 3 ou 4 facteurs quand même dans l'école. Il y a le déficit d'autorité précisément des mères dans les familles monoparentales. Ça ne compte pas pour rien. Il y a la mise en accusation du corps enseignant par les parents qui pensent que leurs enfants sont des HPI et qui viennent se prendre de querelles avec les professeurs. Il y a de manière générale quand même une culture de la dérision, c'est-à-dire tout ce qui est là pour araser les verticalités, pour tout égaliser. Le meurtre occidental du père est en cours et donc on passe facilement de l'homme déconstruit au professeur déconstruit. Après, il y a la concurrence frauduleuse. Vous venez de recevoir un expert. Évidemment, l'argent des deals est un argent plus facile que celui du savoir. Que vaut un traitement d'agrégé au regard du prix d'un kilo de haschich ? Et puis vous avez enfin ce qu'on pourrait appeler une sorte de mitage confessionnel, évidemment toutes les questions qui se posent dans l'école laïque et les attaques contre l'autorité de la République. Donc peut-être que notre avenir a un long passé, c'est-à-dire que ces solutions, est-ce qu'elles sont régressives, est-ce qu'elles sont répressives ? On est au stade de l'expérimentation et du laboratoire. Est-ce que Madame Belloubet, à l'école, est le bon biologiste pour tenir les cornues ? Ruth va nous le dire.
Vous vous souvenez d'Aglaé et Sidonie ?
Oui, au pays d'Aglaé et Sidonie.
Vous vous souvenez des paroles ?
À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant.
Ben, ça sert
au revoir
de faire...
les amis, à bientôt au pays d'Aglaé et Sidonie.
Bravo, il est hyper amnésique. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que des paroles...
À tous les enfants qui sont obéissants.
À tous les enfants qui sont obéissants. Être obéissant était, à la fin des années 60, une vertu. Aujourd'hui, on dirait ce stagiaire ou cet étudiant est formidable, il est très obéissant, on ferait un procès au prof. Je dirais, mais pour qui vous prenez-vous ?
Mais il ne s'agit pas d'ailleurs de servitude, il ne s'agit pas de non-respect, il ne s'agit pas... Enfin, tout cela...
Il s'agit de non-respect quand même.
Non, je veux dire, quand on parle de l'autorité, oui. Il ne s'agit pas de ne pas respecter l'intégrité d'un enfant, d'un mineur. Il s'agit de reposer un certain nombre de valeurs qui le protègent. Ça a l'air super réac ce que je dis, mais la question de l'autorité n'est pas une question idéologique. Elle n'est pas une question droite-gauche, elle n'est pas une question... Elle est une question d'éducation, de la difficulté d'être parent, de la difficulté d'être professeur, d'être un élu, un exemplaire. Tout ça, c'est une forme d'autodiscipline personnelle qu'on
enfin,
transmet.
Mélenchon vous dirait, les enfants obéissants, obédere, credere, c'était un des slogans du fascisme italien. Il ne manquerait pas de le relever. Non, mais après, l'autorité, l'autoritas, c'est assez noble aussi, hein, de façon
l'autorité
latine.
Naturelle, c'est, l'autorité voilà, du savoir, l'autorité qui vient parce que la personne sait et vous parler et vous conduire, entre guillemets, vous accompagner sur un chemin, elle n'est pas critiquable. Et on est dans cette perte-là. Alors évidemment, le problème, ce sont des grands mots, je suis tout à fait consciente, et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est beaucoup de com, beaucoup de mots, et il faut maintenant des moyens. L'affaire des internats, par exemple, a déjà été expérimentée. Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est très dommage. Mais il faut maintenant avoir des résultats. Ça ne suffit pas de parler, évidemment. Ça ne suffit pas de dire des mots. Mais la vertu du mot, la réaffirmation d'une valeur, ça, et c'est important. C'est un message. La politique ou la vie en société, ce sont aussi des mots, ce sont aussi des concepts, ce sont aussi des messages. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me fait frémir, c'est certaines réactions de gens outrés parce qu'on prononce ces mots. Bah, attention, c'est le minimum de la façon de vivre ensemble.
Ruth, vous êtes entrée dans le studio en disant j'ai une extinction de voix, c'est Lambron qui va faire le boulot ce matin. Oui. C'est de la manipulation, clairement. Hein. Marc Lambron.
C'est des effets de manche, c'est une bonne actrice.
En fait, elle est en pleine forme. Oui. Marc Lambron, il y a deux mois, dans ce studio, Pascal Perrineau disait, il parlait des étudiants de Sciences Po. Il disait à mon époque, déjà dire à mon époque, c'est tout de suite passé pour un vieux schnock, mais à mon époque,
le Jurassique,
et c'était la mienne aussi, nous respections nos enseignants car nous respections leur savoir. Et c'était leur savoir qui faisait autorité. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un brontosaure en faisant mien les propos de Pascal Perrineau, qui sera d'ailleurs avec nous vendredi matin.
Bah, c'est aussi l'idée que, si on parle de Sciences Po, que c'est devenu un champ de force et d'affrontement politique avec ce qui s'est passé ces temps-ci. C'est assez frappant de voir. Alors moi, j'ai eu deux confrères de l'Académie française, Alain Finkielkraut, Sylvain Agacinski, qui ont été cancellés, comme on dit. Et au fond, mon point
cancellés, ça veut dire prévoir une conférence dans un établissement universitaire et ne pas pouvoir la tenir.
Et puis l'annuler. Bon, moi, je ne peux que le réprouver, mais y compris quand c'est Mélenchon. Simplement, je ne mets pas de signe égal entre ce qu'ils disent les uns et les autres, mais je mets un signe égal entre leur liberté de leur dire. Alors là, j'ai regardé quand même cette histoire de Madame Panot qui est convoquée pour un communiqué LFI après le 7 octobre à la police pour répondre. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est une offensive armée de forces palestiniennes contre l'intensification de la politique d'occupation israélienne. Bon, et Mélenchon vient...
En fait, on s'est trompé, on n'était pas à Paris. On n'est pas à Paris, en fait, on est au Moyen-Orient. Vous avez compris ce qui est en train de se passer. En tout cas, dans l'esprit des insoumis, on est sur un champ de bataille, en réalité.
Bah, Mélenchon vient de dire que Macron veut protéger un génocide. Oui, un champ de bataille sémantique. C'est assez frappant, parce que du côté d'Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un pogrom. Gilles Kepel nous a expliqué la semaine dernière à cette antenne que c'est une razzia du côté palestinien. Et Mélenchon dit que c'est un génocide. À ma connaissance, le seul État génocidaire pour l'instant, c'est l'Iran.
Gilles Kepel n'était pas à cette antenne la semaine dernière. Vous devez confondre. Il est venu trois fois déjà cette année, ou deux fois, mais ce n'était pas la semaine dernière.
Il n'y a pas très longtemps. Il est venu quand vous étiez en vacances, je crois. Mais bon, enfin, peu importe. Non. Bon, il était là il n'y a pas longtemps. Bon, alors... non, mais ce qui me frappe dans tout ça, finalement... la folie du moment, c'est quand même les distorsions de réalité. C'est-à-dire, c'est l'époque des vérités alternatives de Trump, c'est l'époque où on nous dit que Poutine parle de nazis ukrainiens. Voilà maintenant que Mélenchon dit que c'est un président d'université, c'est Eichmann. Enfin, tout ça est assez sidérant. En même temps, était-ce mieux avant, et j'en aurais fini, on a quand même vécu pendant des décennies, enfin pas nous, avant nous, où il y avait des millions d'adeptes qui ont pris Staline pour un philanthrope et les Khmer Rouges pour des libérateurs. Donc je crois que la bonne recette, la bonne ligne, c'est celle de Raymond Aron, c'est-à-dire pas trop d'illusions lyriques, comme du côté de Sartre, mais cultiver la sagesse de la vérité.
Vous avez oublié un autre fait d'actualité. Fabrice Leggeri, le numéro 3 du Rassemblement national, plainte déposée contre lui par la Ligue des droits de l'homme.
Juste un mot sur, vous savez, cette fameuse phrase « N'importons pas le conflit ». Vous la connaissez, on la répète à chaque fois, le conflit du Moyen-Orient en France. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'on est en pleine campagne européenne et la France insoumise nous fait croire que nous ne sommes pas en France ni en Europe. Et ça, c'est une question fondamentale pour les électeurs, pour les acteurs de la société que nous sommes. Ils ne parlent que d'un seul sujet, alors que ils sont, les Français et les Européens sont concernés par des milliers d'autres sujets.
Eh bien,
sujets.
Vous faites plaisir à un de nos auditeurs, Tanguy, qui nous écrit pour dire parlez-nous des enjeux de cette élection européenne.
Bien sûr.
Allez-y,
ça,
vous êtes
ça,
là pour ça.
Et ça, c'est vraiment une forme d'imposture, mais une forme de calcul cynique qui est quand même très problématique.
Vous n'avez pas remarqué que l'amphibouthmi, c'est la salle Gaza maintenant.
Mais oui, mais c'est...
Voilà l'importation.
Mais c'est ce que je vous dis. On a toujours essayé d'éviter, tous les acteurs sociaux et politiques ont essayé de l'éviter, mais là, c'est assumé, c'est complètement revendiqué dans une stratégie politique d'implantation cynique de long terme. Et je reviens à Fabrice Leggeri et à la judiciarisation de la politique. C'est un problème. Moi, ça me choque et je considère que c'est dommage parce qu'on doit être dans le débat et pas aller devant les tribunaux. Mais néanmoins, la liberté d'expression, elle a deux limites, les troubles à l'ordre public et l'appel à la haine. Et dans ces cas-là, c'est normal d'appliquer la loi.
Ruth, il faut rappeler pourquoi la Ligue des droits de l'homme tente de poursuivre le numéro 3 du Rassemblement national au titre de ses fonctions lorsqu'il était responsable de Frontex. Il n'en aurait pas fait assez ou il aurait non assisté des personnes en danger.
Enfin, c'est surtout qu'il est numéro 3 de la liste du RN maintenant.
Oui, c'est pour cette raison principalement, probablement.
Écoutez, en tout cas, ça mérite un débat politique et le principal, c'est le débat politique. On est en démocratie, c'est un trésor qu'on doit absolument cultiver et préserver. Néanmoins, les limites, c'est, encore une fois, le trouble à l'ordre public. Le président de l'Université de Lille avait bien fait. Le préfet de Lille, en revanche, n'était pas tout à fait, n'avait pas de raison justifiée d'interdire ce meeting. Mais l'appel à la haine et les troubles à l'ordre public, ce sont les limites de la liberté d'expression.
Marc Lambron, puisque Ruth Elkrief est absolument à faune, vous avez le dernier mot et vous devez nous mettre en appétit ou en curiosité de ce que dira le président de la République sur l'Europe, qui peut compléter ce qu'il a déjà dit à la Sorbonne il y a 7 ans, me semble-t-il, ou 6 ans. Et ce sera le dernier mot.
Rapidement, les choses ont quand même bougé pour lui. C'est-à-dire que les élargissements maintenant sont actés, mais ils sont problématiques, voire la Hongrie. Les europhobes progressent dans les opinions intérieures. Et troisièmement, la guerre est aux portes de l'Union. Et d'ailleurs, les Ukrainiens sont soutenus par les USA. Donc, de facto, les deux empires de la guerre froide sont en train de revenir en lice sur le vieux continent.
L'enjeu, c'est de savoir...
L'enjeu, c'est d'essayer de repenser l'Europe. Moi, je fais à Macron quand même le crédit d'une conviction infrangible. Enfin, il a posé le cadre dès 2017 et il y revient en s'auto-commémorant quand il y a un peu le feu au lac, faut dire, sur sa liste pour les élections européennes. Mais pour moi, c'est pas la start-up nation. Il y a quand même une dimension mémorielle, historique chez Macron. Il sait qu'il y a eu de la guerre et il veut que les Français sachent qu'il y a eu de la guerre et que ça peut revenir. Sur le continent.
Ruth Elkrief à faune, évidemment, et Marc Lambron qui a réussi quand même à remplacer
vous m'avez rendu ma voix. Merci,
mais
David.
C'est ça,
merci,
c'est la
Marc.
Magie du micro.
Mais comme disait Aragon, le parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire. Vous, c'est Radio Classique qui vous rend votre voix.
Merci à tous les deux. Revenez mercredi, on vous espère. On va se quitter avec un extrait des Noces de Figaro interprété par Christa Ludwig, cantatrice qui nous a quittés le 24 avril 2021. Voice sapete.
Voice sapete.